En dehors de ma surface est le premier podcast où l'on discute expatriation et voyage avec des acteurs du football. Partons ensemble à la découverte de nouvelles cultures, de rencontres, d'expériences de vie autour de ce langage universel qu'est le foot. Aujourd'hui, nous changeons quelque peu de registre en recevant Jean-Pierre Dolly, consultant en management dans le monde de l'entreprise et du sport. Son parcours peu commun l'a amené à devenir consultant pour le staff de l'équipe de France entre 2004 et 2010, lorsque Raymond Domenech en était le sélectionneur. Il était donc à ses côtés dans la préparation du projet Gagner la Coupe du Monde 2006. Il a également animé des séminaires de management au sein de la Direction Technique Nationale et accompagné des entraîneurs sans emploi dans le programme 10 mois vers l'emploi de l'UNECATEF, le syndicat des entraîneurs. À présent, il accompagne le staff de l'équipe de cyclisme professionnel Arkéa Samsic. Lors de notre échange, il nous parle avec passion de voyage, d'échange, d'interculturalisme, de sport et d'éducation, et nous livre des messages bienveillants, remplis de bon sens. Bonne écoute. Bonjour Jean-Pierre, comment vas-tu ?
Bonjour Hugo, ça va très bien, je te remercie.
Oui, je suis très très content de te recevoir aujourd'hui et d'avoir un peu de temps pour discuter de foot et de voyage qui caractérisent bien ta vie, je pense. On va y venir. Donc merci d'être là. Est-ce que tu peux commencer par te présenter ?
Avec plaisir. Moi je suis originaire de l'Aveyron. J'ai fait mes études à Clermont-Ferrand. Et ensuite, alors, j'ai voulu faire le professorat d'éducation physique, mais on m'a éliminé à la visite médicale pour une anomalie dont j'ai jamais trop souffert, mais qui était éliminatoire, parce que je faisais beaucoup de sport, mais aussi de la pédagogie. Donc j'étais moniteur de colonies de vacances, camp d'ado, etc. Et puis je faisais surtout de l'athlétisme et du foot. Donc j'ai fait d'autres études, évidemment. Et puis j'ai travaillé pendant, pour aller vite, 10 ans chez Renault et 20 chez Danone. Dans des fonctions diverses et variées, de RH et production chez Renault à Paris, à Billancourt, et RH commercial et direction générale en France et à l'étranger chez Danone. Et j'ai notamment été le premier expatrié pour le groupe en Argentine, fin 94, début 95. Et ensuite j'ai terminé en Espagne. Et puis depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, je fais du conseil en management dans l'entreprise et dans le sport. J'essaie toujours de faire ces comparaisons entre le management et la gestion des ressources humaines ou l'organisation même dans l'entreprise et dans le sport.
Mmh. Souvent, pour tout de suite rentrer dans le sujet, on a du mal dans le foot. Quand on parle trop business, trop de manière comme une entreprise, avec les mêmes termes d'une entreprise, on est tout de suite assez critiqué. T'en penses quoi, non ?
Alors, je te donne un rendez-vous dans quelques semaines maintenant, puisque je suis en train de lire la dernière mouture du livre que je viens d'écrire, justement sur ce sujet. Le titre est « Entreprise et sport, Manager de talent ». Donc, est-ce qu'il y a des affinités managériales entre le sport et l'entreprise ? Et oui, et lesquelles ? Est-ce qu'il y a des différences ? Est-ce qu'il y a des ressemblances ? Et en fait, je démontre, entre guillemets, humblement, pour connaître ces deux mondes, en gros depuis 40 ans dans l'entreprise et depuis 20 ans dans le sport de haut niveau, qu'il y a beaucoup plus de différences que de ressemblances. Avant, on disait, un tel, président, et il va dans le foot parce que c'est sa danseuse, il aime bien ça. Il est complètement étranger à la gestion du club. Par exemple, on l'a beaucoup dit pour la famille Pinault, qui a mis beaucoup d'argent à Rennes, mais qui ne gagnait rien. Ils ont gagné là, une Coupe de France il y a 2 ou 3 ans. Bon. Donc c'est deux mondes qui s'ignorent, ou sur lesquels il y a beaucoup de stéréotypes des deux côtés, alors qu'il y a des possibilités de se rapprocher, et il y en a de plus en plus. Et c'est ce que j'essaye de montrer dans ce prochain livre, parce que maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? On voit du naming de stades par des marques, on voit des sportifs de haut niveau en activité ou retraités ou des coachs qui viennent dans les entreprises parler aux managers, mais ils ne connaissent pas l'entreprise, ils connaissent leur sport, mais pas l'entreprise. On voit des sponsors, des partenaires, par exemple, dans un domaine que je connais bien, le cyclisme, où ils ne vivent que par le partenariat. Le cyclisme, c'est pas une ville, c'est pas une région, c'est une marque ou des marques. La voile, pareil. Et il y a de plus en plus de sports ou d'activités physiques et sportives dans l'entreprise, soit par la construction de salles, avec ou sans coach, etc. Des challenges en commun, participer au marathon de New York, faire des tournois de foot, etc. Voilà, donc il y a des possibilités de rapprochement, notamment dans la mesure où l'entreprise pourrait s'inspirer de ce qui fait la force du sport, et notamment du sport collectif, en matière de motivation, de cohésion, de solidarité, esprit d'équipe, etc. Et en revanche, le sport devrait aussi s'intéresser à ce qui marche dans l'entreprise, par exemple pour mieux recruter, mieux évaluer, mieux former, mieux animer des équipes, mieux gérer les ressources humaines, mieux rémunérer, mieux communiquer, etc. Il y a un certain nombre de méthodes qui, adaptées au sport de haut niveau, peuvent tout à fait s'intégrer dans une équipe ou dans un club.
Et pour y revenir, parce que toi, ça fait des années que tu parles de ce sujet-là, et justement, après, on va voir que tu as travaillé avec la fédération dès le début des années 2000. Mais avant d'arriver sur ce grand sujet et ta relation avec l'équipe de France et la Fédé française, on repart en Argentine, parce que c'est un peu pour toi un voyage qui t'a marqué à vie, et c'est un peu notre histoire en commun, c'est moi donc, d'origine argentine. Tu peux nous parler un peu de ce que ça t'a apporté? On va voir qu'après, c'est ça qui t'a fait rentrer dans le monde du foot absolument, professionnel.
Absolument. J'étais en fait directeur général du développement social du groupe Danone à Paris. Mon voisin de bureau était un certain Franck Ribou, qui lui était le responsable du développement, c'est-à-dire les acquisitions, fusions, rapprochements, alliances, etc., avec des entreprises de pays étrangers. Et donc, j'allais avec lui dans certains pays. J'ai été en Europe de l'Est, j'étais au Canada. Et puis un jour, voilà, il m'a dit qu'ils étaient en contact avec le leader du biscuit argentin. Donc, il m'a dit, moi, je ne pourrais pas y aller à l'étranger, mais toi, il y a encore temps. C'est important dans une carrière d'aller faire un parcours à l'étranger. Donc, il m'a dit, je t'emmène avec moi. Voilà. Donc, on est parti un vendredi pour aller signer l'achat de Bagley, leader du biscuit argentin. Et puis, à la fin du week-end, il me dit, maintenant, tu restes. Comment ça, tu restes? On a besoin d'un représentant du groupe ici, donc tu restes ici.
Tu parles espagnol?
Je parlais espagnol, deuxième langue du lycée, quoi.
Oh, okay.
Mais, c'est revenu assez vite, quoi. Donc, j'ai été le premier expatrié du groupe Danone, chez Bagley d'abord, et ensuite, on a fait les acquisitions que tu connais, avec la joint venture avec Serenissima pour les produits frais, et l'acquisition des deux leaders d'eau minérale qu'on a appelé Aguas Argentina, mais qui étaient donc Villa del Sur et Villa Vicencio. Et assez rapidement, un de mes premiers amis a été José Farias, un grand joueur qui avait joué en France pendant longtemps, qui a joué à Toulouse, au Red Star, à Strasbourg, au Racing, qui a gagné la Coupe de France, de mémoire, en 66, je crois, avec Strasbourg, et qui est le vrai inventeur de la roulette, qu'on a attribué à Zidane après un moment, mais tous les vrais journalistes sportifs te le diront, l'inventeur en France de la roulette, c'est José Farias. Et José est devenu un vrai ami, malheureusement décédé beaucoup trop tôt, et on a commencé à parler de foot, etc., et il était en train de créer une école d'entraîneurs inspirée de Clairefontaine, où il avait passé, lui, les diplômes, à la fin de sa carrière de joueur. Il a été d'ailleurs un des premiers joueurs-entraîneurs en France au Red Star. Donc, lui faisait toute la partie terrain, physique, tactique, etc. Et moi, je proposais des choses en matière de management, ressources humaines, communication. Et on a fait les premières sessions avec un certain nombre d'anciens joueurs qui sont devenus entraîneurs derrière. Et puis en 1997, notre président, Franck Ribou, nous fait la surprise d'être sponsor du Mondial. Et donc là, on a déclenché encore plus d'opérations avec le groupe Danone en Argentine. J'ai embauché un des amis de José qui était Mario Kempes, le grand Mario, comme public relation. Donc nous avons fait des actions avec les salariés, les clients, les consommateurs, les fournisseurs, etc. Pour venir à des matchs, assister à des matchs en France. Je continuais pendant ce temps d'intervenir dans l'école d'entraîneurs. Et puis, on a créé aussi la Danone Cup. Danone Cup, une espèce de championnat du monde des Benjamins, qu'on a gagné les deux premières années avec l'équipe de Boca. Et puis, on a créé la Danone World Cup, qui est une compétition qui existait toujours avant le Covid, réunissant les salariés, hommes et femmes. Et même, dans notre cas, on avait aussi inventé la Danone World Cup Junior pour les enfants. Donc, voilà, et j'ai retrouvé par l'Argentine le foot que j'avais pratiqué auparavant, quand j'étais plus jeune. Mais là, je pratiquais le samedi, parce qu'on allait à l'Argentine, quoi. On allait faire des matchs qui se terminaient toujours par un asado avec l'équipe de France d'Argentine. C'est-à-dire tous les anciens joueurs argentins qui avaient joué en France avaient constitué une équipe et ont joué sur les terrains de l'école de José. C'était extraordinaire. Et on a beaucoup travaillé avec les entraîneurs stagiaires et avec ces anciens joueurs sur la Danone Cup, la Danone World Cup, etc.
Et c'était qui les joueurs ?
Il y avait plein de joueurs. Il y avait El Potro Dominguez, qui était le leader syndical, qui avait joué à Nice et Toulon. Il y avait Fernando Sapia, qui a joué à Lille et à Bess. Il y avait Roberto Civica, qui avait joué à Reims et à Bastia. Il y avait plein de joueurs. Les Scurieux, il y avait les Vargas de Nantes, Carlos Bianchi, bien sûr. Enfin bref, tous les joueurs, on va dire, entre les années 60 et 90, qui avaient joué en France. Voilà. Le sujet, c'est que voilà, José avait donc été le premier président de l'Association des entraîneurs argentins. Et il y avait à célébrer le 30e anniversaire des entraîneurs argentins. Et il voulait faire venir un de ses meilleurs amis, c'est même son meilleur ami, qui était un certain Aimé Jacquet. Et donc, je fais la connaissance par José d'Aimé, qui, après 98, n'a pas été dans une grande forme, après ce qu'il avait pris dans la figure avant le Mondial, et puis être sur le toit du monde et dans le Mondial. Bon. On le nomme DTN, et il m'appelle, et il me dit, il faut que tu m'aides, parce que c'est un métier nouveau pour moi, qui est très administratif, bureaucratique, etc. De mon bureau, je vois des jeunes s'entraîner, j'ai qu'une envie, c'est d'y aller, il faut que tu m'aides.
Bah ouais, c'est un autre métier.
Bon, je dis, depuis Argentine, ça va être un peu compliqué.
Toi, tu l'avais connu
Connu parce qu'il est venu en Argentine, on l'a fait venir. Ouais. Au début, il avait fait venir ses deux adjoints, donc Raymond Domenech et Jean-François Jodard, qui s'occupaient du DEPF, Diplôme d'entraîneur professionnel de foot. Et puis Aimé est revenu quelques mois après. Je l'ai connu là, à ce moment-là. Donc, on leur a fait découvrir le foot en Argentine, donc les clubs. Et puis voilà, le soir, l'asado, le tango, etc. Donc, ils avaient beaucoup apprécié. On l'avait amené au fameux club Parquet, d'où sont sorties de nombreuses étoiles argentines, avec l'ami Ramon Madoni. Que j'ai fait venir en France. On a mangé ensemble avec Aimé Jacquet, à Clairefontaine. C'était des moments extraordinaires.
Ouais, c'est un petit club de quartier qui a formé les meilleurs joueurs d'Argentine.
Exactement.
Riquelme, Cambiasso.
Exactement. C'est un ancien. C'est un monsieur qui joue au foot, mais qui travaillait dans un frigorifico, qui a eu des problèmes personnels, familiaux, divorce, etc. Et qui a investi le reste de sa vie, il vient d'avoir 80 ans. Dans le foot, donc il a créé ce club Parquet, un truc inouï quoi. Tous les soirs, il y avait une centaine de jeunes qui venaient s'entraîner, la plupart des bidonvilles, des Villa Miseria. Donc il leur offrait le ticket de bus pour venir, le sandwich, ce qui était leur seul repas de la journée pour beaucoup. Et alors les Français qui sont venus étaient étonnés parce qu'il avait 100, il était tout seul, avec 100 jeunes, sur un terrain comme un terrain de basket ou de hand, avec des ateliers, etc. Et Aimé disait, mais quand je pense que quand la pelouse n'est pas taillée à la bonne dimension chez nous, tout le monde râle. Quand je pense que les médecins nous disent de ne pas mettre des jeunes sur des terrains en dur, enfin, etc. Et que là, je vois, voilà, ils ont été étonnés de voir comment on sortait des Tevez, des Cambiasso, des Sorine, et maintenant des Paredes, etc. Bon, bref. Donc voilà, j'ai fait tout ça et puis après je suis parti en Espagne et j'ai continué à avoir des relations avec Aimé. Et comme j'étais en Espagne, à Madrid, c'était plus près. Et donc je venais régulièrement et en off, le soir, le week-end. Voilà, je discutais beaucoup, je changeais beaucoup avec Aimé. Et ensuite, j'ai été pendant un temps associé dans un cabinet de conseil. Et donc j'ai aidé Aimé à réorganiser un peu la DTN en lui proposant des formations. Donc j'ai créé des formations pour les conseillers techniques régionaux et départementaux, pour les directeurs des centres de formation. Il y en avait 35 à l'époque, il y en a 36 je crois maintenant en France. Et puis je faisais la partie management du DEPF, diplôme d'entraîneur professionnel de foot obligatoire pour entraîner en Ligue 1, Ligue 2. Et puis, donc on est entre, on va dire, 2000 et 2004.
Ça, en tant que consultant, tu venais de temps en temps, tu n'avais pas été embauché par la...
Non, pas du tout, j'étais extérieur.
Et il t'avait bien, justement, de ce monde du foot dont on parlait tout à l'heure, il t'avait bien accueilli?
Ouais, parce qu'il voyait que je connaissais quand même un peu, j'y avais joué, bon, il y avait longtemps, mais surtout, je venais avec l'image d'avoir fait beaucoup de choses en Argentine, notamment d'être intervenu dans ces domaines-là, management, ressources humaines, communication, dans une école de formation d'entraîneurs. Donc, et puis je venais via Aimé Jacquet, quand même, qui était le patron du foot français, le DTN à l'époque. Hein. Donc, ça se passait très, très bien. J'étais très bien accueilli. J'essayais, entre guillemets, modestement mais intelligemment, d'adapter à ce monde-là ce que j'avais connu chez Renault et Danone en matière de projet, d'organisation, de gestion de conflits, gestion de risques, de gestion des ressources humaines, de recrutement, enfin, etc. Pour donner un exemple, un directeur de centre de formation à l'époque, c'était, je crois que ça n'a pas beaucoup changé d'ailleurs, c'était un ancien joueur, entraîneur, auquel on confiait les clés en fait, d'une PME, selon les clubs, de 15, 20, 30 jusqu'à 50 personnes, voire plus, avec d'une part des bureaux et d'autre part du terrain. Donc terrain, ça allait, il y avait des entraîneurs pour entraîner les jeunes. Les bureaux, c'était gestion, compta, finance, management, etc. Et là, il fallait un peu les former. Donc voilà, j'avais bâti un stage pour les acculturer un peu à ce que c'est que l'organisation, le management, la gestion des ressources humaines, la com, etc. Et c'est un peu ce que je faisais aussi avec donc, les conseillers techniques régionaux et avec la partie management du DEPF. Arrive 2004, et donc... une catastrophe en 2002 où on est éliminé au premier tour.
Avec la meilleure équipe du monde.
Avec les meilleurs buteurs européens, etc. Bon. Et puis 2004, l'Euro au Portugal, qui était guère mieux, où on se fait éliminer aussi assez rapidement. Et donc j'ose proposer à Aimé un projet, gagner le Mondial 2006. On était clairement deux à y croire, lui et moi à l'époque, il faut se remémorer. Hein. Et puis, donc ce projet, c'était quoi? Une dizaine de planches de PowerPoint. Pourquoi et comment? Il faut que ça soit la DTN qui reprenne la main et d'arrêter de... En fait, parce qu'il y avait deux pyramides, quoi. Il y avait une pyramide joueur et une pyramide entraîneur. Et ceux qui ne s'intéressent pas au foot ne le savent pas, mais par exemple, un sélectionneur d'équipe de 20 ans ou 18 ans, il ne fait pas ça toute l'année parce qu'il n'y a pas beaucoup de matchs. Il est surtout le formateur, l'éducateur et d'entraîneur. Et en fait, ces pyramides, c'était quoi? Par exemple, celui qui était le sélectionneur de 18 ans, il faisait le premier niveau d'entraîneur. Et on montait comme ça la pyramide pour aller jusqu'au A et au DEPF. Mais ce n'était pas celui qui formait le DEPF qui entraînait les A. Les deux derniers étant des gens venant de l'extérieur, Santini et Le Maire. Bon, déjà, il y a eu ça. Et puis ensuite, il fallait bâtir sur quelque chose qui s'était mal passé dans les deux dernières compétitions, mais qui s'était très bien passé 6 ans avant. Donc j'ai écrit ce projet. Ça a beaucoup plu à Aimé. Il est parti au Conseil fédéral, Assemblée générale avec ce projet. Et il m'a appelé le soir en disant « Je crois que ça va être bon, mais il va falloir que tu l'aides parce que ça ne va pas être simple. » Et en fait, il avait présenté le projet et présenté qui allait incarner le projet, qui était son adjoint Raymond Domenech.
Ouais, c'était naturel, c'était l'entraîneur et le sélectionneur des espoirs.
Exactement. Et le patron du DEPF.
Et voilà, le patron du DEPF.
C'est-à-dire pendant 10 ans en plus, même, il a formé beaucoup d'entraîneurs français. Donc Raymond m'appelle quelques jours après et me dit « Je sais que tu as eu Aimé, j'ai un rendez-vous la semaine prochaine avec le président, il faut qu'on se voit. » Donc on se voit, on parle du projet que j'avais écrit.
Gagner la Coupe du Monde 2006.
J'essaie de le préparer un peu à l'entretien avec le président. Il m'appelle le soir de l'entretien en me disant deux bonnes nouvelles. Un, elle est née. Et elle s'appelle Victoire, c'était son premier enfant avec Estelle Denis. Et deux, le même jour, je suis nommé sélectionneur de l'équipe de France.
Incroyable.
Bien sûr, c'est grâce à Aimé, mais tiens un peu aussi pour quelque chose, donc au boulot. Et au boulot, ça veut dire, on a commencé à bosser. Donc moi, pas du tout sur les joueurs.
Ouais, ça
tu dis. Même la construction du staff, d'ailleurs, c'est lui qui l'a créé avec Aimé. Mais j'ai proposé de décliner le projet. Donc en faisant des réunions avec lui d'abord, entre juillet et août, et on a fait une première réunion de tout le staff avant la première rencontre, une rencontre amicale, je ne sais plus, contre un pays de l'Est, je crois, de mémoire. Et voilà, donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce que je savais faire dans l'entreprise, c'est-à-dire organisation, formation, définition de fonction, comment on va fonctionner, comment on décline ce projet pendant les 2 ans qui viennent. Parce qu'on a, contrairement à l'entreprise, on a la chance d'avoir des paliers. Les paliers, c'est la qualification. Mmh. Donc, comment on fait ?
On s'entraîne.
Comment on s'organise ? Par exemple, il n'y avait pas ni de brief, ni de débrief bien organisé. C'est-à-dire, en gros, les joueurs arrivaient le lundi pour un match le mercredi. Bah, le staff arrivait à peu près en même temps. Donc, on est venu le lundi matin. On préparait tout pour que tout soit impeccable. Et puis, on se revoyait après le match pour débriefer.
Ça, ça n'existait pas vraiment ?
Si, mais c'était pas... Voilà, il y avait des choses qui existaient. On ne partait pas de zéro, des feuilles blanches. On n'a pas été champion en 98 par hasard non plus. Hein.
Ouais, bien sûr.
Il y avait des choses à apporter. Alors, je n'étais pas coach, qu'on soit clair, contrairement à ce que les journalistes ont écrit. Je ne suis toujours pas coach, d'ailleurs. Mais on m'a baptisé le coach du coach, etc. Non, j'étais un homme d'entreprise qui prétendait un peu connaître l'entreprise et le sport de haut niveau. Et j'ai essayé d'adapter. Voilà. Et à quelques éléments près, dont le coup de boule de qui tu sais, on aurait pu gagner, et on aurait dû gagner ce mondial 2006 aux yeux. On est les vainqueurs moraux.
Ce que dit Raymond Domenech, c'est qu'il avait tout, avec toi et avec tout son staff, mais il avait tout prévu. Il avait réussi à tout anticiper jusqu'à 2 jours avant la finale. Il parle souvent de ça, non ? Que les 2 derniers jours, c'est parti un peu...
Il y avait beaucoup de choses qui se sont passées, que j'ai écrit mais que je n'ai pas publié. Et lui non plus, dans son bouquin, n'a pas tout dit. Mais il y a des choses bizarres qui se sont passées dans les derniers jours. On n'a pas
Vous n'avez pas aimé cette...
On était dans un hôtel qui n'était pas en plein centre-ville, alors que les Italiens étaient dans la campagne. On n'a pas eu les ballons qu'il fallait. On n'a pas... les femmes sont arrivées au moment des hymnes, pour les billets qu'il fallait. Enfin, il y a eu plein de choses qui ont perturbé les derniers jours. Mais bon, ce n'est pas une raison. On dominait clairement sur le terrain, les Italiens. Mais voilà, c'est le foot, c'est la vie. Hein.
Ouais, non, c'est sûr. Ton projet que tu as eu avec Aimé Jacquet et Raymond Domenech 2-3 ans, il s'est passé à la perfection.
Non, pas du tout. Non, c'est pas
à
la perfection.
Cas,
il s'est déroulé.
J'ai
réussi à le faire dérouler grâce à Aimé au départ, mais qui intelligemment, progressivement, a donné les clés un peu à Raymond. Hein. Mais à l'époque, Raymond était, entre guillemets, un peu un fils spirituel d'Aimé Jacquet, comme Didier Deschamps l'est aussi maintenant. Hein. J'étais pas tout le temps présent, moi. Hein. Je faisais des interventions. Surtout avec le staff, essentiellement avec le staff. J'en ai fait quelques-unes avec les joueurs, mais très peu, je t'expliquerai après. Donc on faisait des stages, par exemple, soit à Clairefontaine, soit on a été une fois à Deauville, on a été tous les hivers pratiquement, on allait à Tignes aussi, parce qu'on avait un accord avec la station. Parfois on faisait venir nos épouses aussi, voilà. Donc c'était une construction de ce projet, un peu comme pour sortir un nouveau yaourt ou sortir une nouvelle voiture, finalement. Là, l'objectif, c'était gagner une compétition sportive. Donc, ça n'a pas été rose tout le temps, mais pas tellement dans la partie dont je m'occupais. Avec le staff, ça s'est toujours relativement très bien passé. Mais par contre, c'était compliqué, parce que Raymond avait appelé tous les ex-98 ou 2002-2004, et certains, très peu, lui avaient dit non. On revient pas, on arrête.
Ouais, c'est ça, parce que c'était entre 2004 et 2006, c'est là où ils étaient tous partis à la retraite.
Et d'autres avaient dit, ils avaient dit, attends, on va voir, et on vous dira, mais on ne dit pas oui, on ne dit pas non. Et en fait, il a fallu beaucoup de travail, que Raymond écrit dans son livre d'ailleurs, pour faire revenir, en même temps d'ailleurs, un an après, en 2005, Zidane, Thuram et Makelele. Et là, ça a un peu tout changé. Pour répondre à ta question, il y a eu des hauts et des bas, mais globalement, il s'est bien déroulé. Et la preuve, c'est qu'à un chouï après, Et d'ailleurs, après, c'était très marrant parce qu'on a été sollicité avec Aimé et avec Raymond pour aller comparer 98 et 2006 ou pour aller expliquer. Pour certains, c'était une presque victoire. Pour d'autres, c'est comment on réagit après un échec. Enfin, voilà, dans les entreprises. Ou dans le sport.
Tu pouvais le prendre des deux manières.
Tu pouvais le prendre de deux façons.
Mais bon, on va le prendre de manière positive.
Ah, mais c'était une aventure sportive pour moi. C'était une aventure sportive et humaine formidable. Alors juste pour les joueurs, je disais, en fait, moi j'essayais d'innover aussi un peu. Par exemple, je leur faisais un papier, 2 pages, sur le pays qu'on allait rencontrer. Avec le pays, donc histoire, géo, politique, etc. Et le sport et le foot. Et je le mettais sur leur table au petit déjeuner. On peut tout dire, il n'y a pas beaucoup qui le lisaient au début. Mais après, ils commençaient à s'intéresser, ils me posaient des questions. Et puis, comme je faisais, on n'a pas parlé encore, mais j'avais commencé chez Renault par ce qu'on appelle maintenant du management interculturel. Ben j'ai fait par 2 fois des soirées sur le management interculturel, l'histoire de l'humanité, l'histoire d'immigration, le racisme, etc.
Pour les joueurs.
Pour les joueurs et le staff. Ouais. Mais c'est tout. Je n'intervenais jamais
dans le sportif,
pour le sportif, ni pour le choix des joueurs, ni pour dans les causeries, etc. Jamais. J'étais invité au match. Donc voilà, c'était plaisant. J'étais invité aussi à participer, mais pas à temps plein, aux préparations. Donc j'étais actif sur la préparation, par exemple. À chaque fois, on a fait 3 compétitions, 2 mondiaux et un euro. Et à chaque fois, on allait à Tignes. Donc voilà, j'aidais à préparer avec le staff ces stages qui étaient de longue durée. Hein. Quand on va en finale en Allemagne, c'est un groupe de 23 jeunes de 20 à 30 ans et de 23 adultes de 30 à 60
et le staff,
qui sont ensemble pendant 7 semaines.
Quasiment que des hommes.
Que des hommes, bien sûr.
Le staff,
Que des hommes. Et donc, voilà, il peut y avoir des tensions entre joueurs, entre staff et joueurs. On est dans des bunkers en général, avec des moments avec les médias. Un entraînement quasi quotidien, mais léger, c'est de la récup plus, ou de la mise en place tactique. Et puis un match tous les 3-4 jours, quoi. Donc c'est une organisation qui n'existe pas ailleurs.
Ouais, ça, il n'y a plus de parallèle avec le monde de l'entreprise. Ça n'existe nulle part ailleurs.
La seule chose, c'est sur la gestion du temps, l'important, l'urgent, qui fait quoi. On faisait des plannings quotidiens, qui fait quoi aujourd'hui, avec y compris les cuistots qu'on avait amenés, les kinés, les médecins, enfin, etc. Donc il y avait toute une organisation mise en place. Au profit des joueurs, pour les mettre dans les meilleures conditions, pour qu'il n'y ait pas de grain de sable.
Et justement, après on en parle souvent, de quand tu choisis un groupe de 23 joueurs, bon pareil pour le staff, mais tu as 13-14 joueurs titulaires, entre guillemets, et après il faut choisir les bonnes personnes pour qu'ils peuvent accepter ces moments-là, où en plus de tout de ce temps à attendre, tu joues pas tous les 5 jours.
C'est ce que je décris pas mal dans un livre qui est sorti il y a quelques années, il y a 5-6 ans, qui s'appelle L'accordeur de talent, qui est la baseline de ma société. Ouais. Et en fait, pour revenir au séminaire que je faisais à Clairefontaine, quand je faisais la partie management, en fait, j'animais le premier module du DEPF, qui était axé là-dessus, sur le management et la gestion des ressources humaines. Et le premier soir, je faisais un débat entre mon ancien patron, Franck Riboud, et Aimé Jacquet, sur le thème de, justement, le management comparé entre l'entreprise et le sport. Et par exemple, à cette question, Aimé répondait, oui, bien sûr, moi, je sélectionne 23 joueurs, mais je sais que je vais tourner avec 15, 16, 17, 18, et qu'il y en a qui joueront jamais. Par exemple, le troisième gardien, statistiquement, il ne joue jamais. Et même certains autres joueurs à d'autres postes. Franck Riboud, disant, moi je sélectionne un COMEX, c'est 8 personnes, je pourrais en avoir 15, 20 qui ont le niveau pour y être. Mais il faut que j'en prenne 8. Donc quel est mon boulot? De m'occuper plus, disait Aimé, de ceux qui ne seront pas dans les 15-16. Et Riboud disait la même chose. Pour l'un, pour Aimé, c'était, il faut que je les vois, et mon staff aussi, les voir souvent pour les accompagner, les rassurer, faire en sorte qu'ils soient toujours là, actifs aux entraînements, parce qu'on n'a pas besoin d'eux, d'être éventuellement des animateurs de vestiaire ou des repas, etc. Et puis Franck Riboud répondait, moi, je n'ai pas envie du tout qu'ils partent à la concurrence, donc il faut que je leur confie des missions, que je leur dise que ce n'était pas leur tour ce coup-là, mais peut-être ça sera le coup d'après, etc. Voilà. Donc il y a une gestion des remplaçants qui est extrêmement importante dans le sport de haut niveau. Comme dans l'entreprise. À la limite, plus que les titulaires. Les titulaires, ils le savent, plus ou moins, qu'ils seront titulaires à quelques jours près. Donc, cela, il n'y a pas, sur le plan strictement relationnel ou humain, il n'y a pas énormément de choses à faire. Par contre, avec les autres, oui.
C'est ce que dit Domenech sur 2006. C'était très clair. les 12-13 titulaires et les autres. C'était, et en 2010, il n'avait pas trop réussi à faire cette distinction-là.
Non. Ben, regarde Didier Deschamps en 2018. Hein. Il n'a pas tourné avec 23 joueurs. Il y en a même un qui a joué jamais.
Oui, Rami.
Rami.
Et après, toi, tu as continué à faire partie de l'aventure avec...
j'ai continué, mais sans, alors, malheureusement sans projet.
C'est ça, c'est ce que je me dis. J'ai l'impression qu'il y avait cette obsession finale 2006. Ouais, et absolument. Une fois que ça passe à autre chose, exactement. C'est difficile de relancer la machine.
Il y a eu plusieurs raisons. Hein. Ça n'engage que moi. Hein. Mais il n'y avait plus de projet. Donc, on fait avec ce qu'on a. Parce qu'il y en a énormément de très bons qui ont pris leur retraite. En 2008, en gros, la conclusion de Domenech, c'était de dire l'équipe, dans l'équipe, il y avait trop de vieux et trop de jeunes, en gros. Parce qu'il restait encore quand même Coupé, Vira, etc. Mais il y avait Nasri, Benzema, Ben Arfa, il y avait des jeunes aussi qui arrivaient, des jeunes de 20 ans. Donc ça n'a pas très bien marché et il n'y avait pas de projet.
Vous n'avez pas tablé sur gagner l'Euro en 2008.
Et moi, j'étais beaucoup moins présent, parce que d'abord, j'ai beaucoup d'activités extérieures avec les entreprises. Et puis parce que encore une fois il n'y avait pas ce projet de gagner. Bon, idem entre alors après 2008 éliminé au premier tour, tout le monde pensait que c'était terminé l'aventure. Et puis paf, le président renouvelle Domenech pour aller jusqu'en 2010, mais toujours pas de projet parce que clairement il n'y avait pas de très grands joueurs. La preuve, c'est que dans cette équipe de 2010 qui s'est terminée comme tout le monde sait, l'immense majorité des joueurs n'étaient pas dans des grands clubs, sauf deux, Ribéry qui était au Bayern et Evra qui était le vice-capitaine de Manchester. Tous les autres étaient soit dans des clubs en dessous de ce niveau, de ce très haut niveau, soit dans des clubs français. Il y avait évidemment des bons joueurs. Il y avait Lloris dans les buts, bon, il y a encore, Mandanda. Bon, mais voilà, il n'y avait pas une très grande équipe. Et puis, bon, on va pas reparler, ça a été décrit en long et en large. Même si tout n'a pas été dit, notamment par les joueurs, de ce qui s'est passé en 2010. Mais j'étais entre 2006 et 2010, j'étais clairement beaucoup moins présent. J'allais à quelques matchs, mais pas tous. Et d'ailleurs, c'est une raison pour laquelle aussi, je me suis un peu plus investi en off toujours, puisque mes clients principaux étaient quand même les entreprises, avec mon ami Emmanuel Hubert, qui commençait à créer une équipe cycliste professionnelle, avec laquelle je suis toujours actuellement. Et pareil, de façon bénévole, amicale, pour aider son staff, plus que les coureurs, à s'organiser en équipe pro, en s'inspirant toujours de ce que j'ai appris dans l'entreprise.
Il y a un parallèle à faire entre le cyclisme et le foot, dans cette gestion du staff, justement.
Alors, oui et non. Oui, parce que c'est toujours le haut niveau.
On n'a pas dit, c'est Arkea...
C'est Arkea Samcycle, l'équipe cycliste professionnelle, avec comme leader Nairo Quintana, Colombien, Nasser Bouani et Warren Barguil. Donc il y a 28 coureurs. Il y a à peu près pareil, une trentaine de personnes dans un staff. Mais il y a beaucoup de différences. D'abord, le cyclisme. Et paradoxalement, ils ont un avantage aujourd'hui parce que il y a plus ces rencontres physiques. C'est un sport... D'abord, je l'ai dit tout à l'heure, qui est lié à une marque ou à des marques, beaucoup de banques et de compagnies d'assurance, et qui est éparpillé partout. Il n'y a pas deux personnes, ni du staff, ni des coureurs, qui vivent au même endroit. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire management à distance. Donc, dans l'époque actuelle, depuis l'an dernier, c'est un avantage.
Vous étiez préparé.
On était un peu préparé. Mais ceci, très gênant, quoi. J'en parle souvent avec Manu et puis d'autres, c'est la première équipe qui arrivera à mettre tout son staff et tous ses coureurs au même endroit, elle va tout gagner.
Ouais, parce que c'est
un sport d'équipe, ouais. Le vélo. Et là, quand vous avez des Colombiens, des Estoniens, des Belges, des Hollandais, des Français disséminés partout en France, d'abord, il faut faire extrêmement confiance, parce que voilà, ils s'entraînent tous les jours. Hein. Alors maintenant, heureusement, il y a des outils technologiques qui permettent de vérifier. Donc en cela, dans l'organisation, c'est quand même très différent, quoi. Et puis après, il y a l'argent aussi qui change tout, parce que c'est des jeunes du même âge, hein, donc avec les mêmes délires, mais avec beaucoup moins d'argent. Ils m'en parlent d'ailleurs, les coureurs, de comparer. Je dis, tu parles des filles, tu parles des montres, tu parles des voitures, etc. Mais vous n'avez pas tout à fait les mêmes revenus, quoi.
donc
ça change beaucoup de choses. Mais c'est quand même du sport de très haut niveau. Et les champions ont toujours quelque chose en plus. Quoi.
Ouais, de différent des autres.
Bien sûr, quand je repense à Zizou, à Thierry Henry, à Vieira, à Thuram, à Makelele, et quand je vois aujourd'hui Nasser Bonny, Nairo Quintana, comment l'histoire qu'ils ont, comment ils se sont construits, comment ils fonctionnent, comment certains les jugent, entre guillemets, comme des casse-couilles, parce qu'ils sont... en fait, ils ne sont pas comme ça. Ils sont exigeants, parce que c'est le très très haut niveau. Donc il y a une exigence énorme pour eux-mêmes, déjà, avec quasiment une sorte d'ascétisme, quoi, parce que quand tu dois aller t'entraîner tous les jours, par tous les temps, bah, tu fais, t'as pas les mêmes délires que des jeunes de ton âge qui sont pas dans le sport de haut niveau, quoi. Donc t'as une exigence vis-à-vis de toi-même.
Et que t'acceptes pas que quelqu'un fasse moins.
Exactement. Et autour de toi, tu veux la même exigence. Donc tu t'essayes de professionnaliser ton entourage.
Et si on revient à ton époque équipe de France, ce qui est assez intéressant, même si ça sort un peu de notre sujet, c'est qu'on n'a pas beaucoup parlé de toi en 2006, en 2008. Mais 2010, il y a cette catastrophe. Et là, tout de suite, on essaye de chercher. C'est là où on a quand même plus parlé de « mais qui étais-tu ?»
Alors déjà, premier point, ce n'est pas dans ma nature d'aller parler, notamment aux médias. Et deux, j'avais l'interdiction de le faire. J'avais un contrat avec la Fédé, interdiction de parler aux médias pendant 10 ans. Donc je ne parlais pas. Mais les journalistes me voyaient. Donc j'ai été taxé de tous les noms de la Terre que tu as pu lire éventuellement. Oui, il fallait trouver un ou des boucs émissaires. Et donc je n'ai pas donné d'interview. J'ai donné qu'une seule interview au journal L'Express, 6 mois après, je pense, 2010, pour dire qui j'étais, ce que je faisais. Et surtout ce que je ne faisais pas. Donc je n'étais pas un spin doctor, j'étais pas une éminence grise, j'étais pas le psy de l'équipe de France, j'étais pas un préparateur mental, j'étais pas un coach, j'étais voilà ce que j'ai décrit avant, un homme d'entreprise qui modestement prétend connaître un peu le sport du niveau et pouvoir faire ses comparaisons. Moi, j'ai rien à en dire, j'ai pas à répondre à tout ça.
À cette polémique, parce que toi, niveau staff, tout c'était plutôt correctement passé.
Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 2006 à 2010, j'étais beaucoup moins présent. Il n'y avait pas de vrai projet, contrairement à 2004-2006. Mais bon, tu ne peux pas l'empêcher. C'est le foot, c'est le sport, c'est la vie. Bon, ça m'a surpris, parce qu'on me rapportait un peu des choses écrites ici ou là. Mais ça ne m'a jamais vraiment traumatisé.
Mais tu dis, j'aime bien le parallèle, pour finir avec ce sujet, c'est... Tu disais, dans une entreprise, on aurait fait une gestion de crise. On aurait fait une réunion de crise. Avant que ça éclate, on aurait réuni tout le monde et on aurait discuté.
Et on a fait, ce qui est paradoxal, c'est qu'on a fait une formation à la gestion de crise, avec un guide de crise, avec des idées comme qu'est-ce qui se passe si, avec le bus, on renverse un gamin, si notre motard a un accident, qu'est-ce qui se passe si on va à Tignes avec les enfants et qu'il y a une menace d'enlèvement des enfants. Enfin, on a imaginé, voilà. Alors on n'a pas imaginé un coup de boule, un adversaire, ça non. Mais voilà, on a imaginé plein de choses, et jamais, en espérant que jamais ça n'arrive.
Oui, bien sûr.
Mais étant préparé à ça. Dans l'entreprise, c'est beaucoup mieux organisé et géré, parce qu'il y a de la méthode, il y a une organisation, il y a un suivi. Dans le foot, tout va très vite, quoi. Tout va trop vite. Il y a un cadre d'entreprise, il n'est pas remis en cause tous les 2 ans ou 3 ans. À l'occasion de quelques défaites, quoi. Je fais toujours cette comparaison, moi, t'es entraîneur même d'un club, t'as quelques défaites virées du jour au lendemain, parce que t'as un contrat à durée déterminée. Pour virer un manager, il faut quand même construire un dossier, quoi. Et tu vois pas des managers virés tous les 2 ans, quoi, à quelque niveau que ce soit, hein, du plus haut niveau au plus bas, hein. Donc, et c'est surtout, c'est lié aussi à des mauvais résultats ou à des mécontentements d'actionnaires. Voilà, donc c'est là aussi, quand on fait ce, je le décris dans mon prochain bouquin, quand on fait ces parallèles, il y a des choses complètement différentes, notamment pour cette gestion de crise ou de conflit, quoi.
Ouais, et comme tu dis, ce point de licenciement où les gens, surtout ici en France, on se fait pas tous licencier tous les 2-3 ans comme les entraîneurs, même s'ils sont un peu préparés, habitués, c'est quand même psychologiquement assez difficile. Je pense pour un entraîneur de se faire virer.
Ah bah c'est un métier de fou, hein, honnêtement, sur différents registres.
Ouais, hein,
et d'ailleurs, ça a été l'objet aussi d'interventions. Alors, on peut en parler peut-être maintenant si on a le temps, mais Aimé Jacquet me dit un jour, quand il était toujours DTN, j'ai des offres d'emploi qui arrivent sur mon bureau de DTN, notamment pour partir à l'étranger, mais j'ai très peu de candidats. Parce qu'en fait, ma génération n'a pas joué à l'étranger. Et à part quelques baroudeurs en Afrique, comme le roi,
Philippe Troussier,
voilà. À part Arsène Wenger, qui était au Japon, puis en Angleterre, il y a très peu d'entraîneurs qui sont à l'étranger. Donc, toi qui as vécu à l'étranger, en Argentine, en Espagne, qui connais bien le sujet, puisque tu donnes des cours de management interculturel dans des écoles ou dans les entreprises, je fais une réunion de tous les entraîneurs Ligue 1, Ligue 2. Il faut que tu viennes démystifier ce départ à l'étranger parce que c'est pas normal. On sait qu'on a une très bonne formation d'entraîneurs, mais malheureusement, on a plus d'offres d'emploi que de candidats pour
partir. C'est incroyable.
Donc, j'ai construit un topo d'une demi-journée et j'étais planché devant les entraîneurs de Ligue 1, Ligue 2. Et à ce moment-là, l'UNECATEF, le syndicat des éducateurs-entraîneurs, a créé aussi un module pour les entraîneurs sans emploi.
Oui, 10 mois vers l'emploi.
Voilà, 10 mois vers l'emploi. Donc, j'ai continué en fait à faire, cette acculturation au management interculturel à la fois au DEPF et à la fois à l'UNECATEF pour les entraîneurs au chômage. C'était quoi ? C'était l'histoire de l'humanité, d'où on vient, les immigrations, le racisme. Comment on se prépare à partir en expatriation, quels sont les risques, les dangers, etc. L'UNECATEF avait fait aussi appel à la famille Levamis de Marseille, qui proposait des cours d'anglais, de l'anglais du foot, carrément. On préparait, par ce biais-là, on a préparé aussi des entraîneurs français, la plupart pas connus, venant pas de club pro, à partir à l'étranger. Et ça a marché. Pendant 10 ou 15 ans, ça a très bien marché. Et à un moment, il y avait une centaine d'entraîneurs français à l'étranger, dans tous les pays du monde. Il y en a un de mes derniers stages que tu as interviewé, qui est parti comme sélectionneur des Fidji, ouais,
Christophe Gamel.
Il y a Jackie Bonnevé, qui n'avait jamais imaginé, il te l'a dit, de partir à l'étranger. Ils ne partent pas, évidemment, dans les pays où le foot est développé. Ils ne vont pas en Argentine, ils ne vont pas au Brésil, ils ne vont pas en Espagne, Italie, ou très peu. Ou alors, c'est les plus médiatiques ou qui ont réussi. Ils vont en Asie, ils vont en Afrique, bien sûr, au Maghreb, au Moyen-Orient, au Canada, aux États-Unis, il y en a aussi. Voilà, et la formation française a une très, très bonne image, à la fois pour des jeunes, pour les enfants, les ados, les centres de formation, mais aussi pour les clubs.
C'est justement Raymond Domenech, en tant que président de l'UNECATEF, il vient de sortir un papier, une tribune, parce que les entraîneurs français se sont fait attaquer par le directeur général de Marseille, Pablo Longoria, et lui il dit « Arrêtez déjà le savoir-faire des entraîneurs français, on ne peut pas dire qu'il n'existe pas, et surtout, des entraîneurs français, il y en a partout. » Il dit par contre, et c'est vrai, il y a deux points de le problème des entraîneurs français à l'étranger. C'est d'abord, ils ne se vendent pas très bien. Et après, il y a le réseau. On n'utilise pas beaucoup ce concept-là d'essayer de trouver des postes pour des amis, pour d'autres entraîneurs français. Alors, chose que font très bien les Portugais, les Espagnols.
Alors justement, on a travaillé là-dessus, à la fois au DMVE, mais aussi avec la FEDE, à l'époque où je faisais les stages. Parce qu'à l'époque, on mettait tout sur la langue. Et en fait, on a réglé le problème assez rapidement en travaillant avec des linguistes qui nous disaient que, en gros, avec 300, 400, 500 mots ou expressions d'une langue différente, par exemple l'anglais, tu arrives très bien à te débrouiller dans un métier répétitif. Tous les jours, toutes les semaines, tu dis à peu près la même chose, les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes concepts, etc. La langue, ça a été rapidement éliminé. D'ailleurs, pour les entreprises qui avait à sélectionner ou à faire partir des gens à l'étranger, c'était la même chose.
Ouais, comme tu disais, toi, tu parles espagnol, t'es pas trop
l'ancien. L'angoisse de la langue. Maintenant, moi, j'avais pas parlé espagnol depuis ma deuxième langue au lycée. Quand t'es tout seul au milieu de gens qui ne parlent que l'espagnol, au bout d'un mois, t'es bilingue, quoi. Voilà. Et puis au bout de 4 ans, t'es même biculturel, comme Jackie te l'a raconté, d'ailleurs. Donc, sur les deux autres points, il y avait la bonne utilisation du réseau. On préparait les entraîneurs, notamment au chômage, à bien utiliser le réseau. Car aujourd'hui, il n'y a plus d'annonces, c'est clair. Mais même pour l'entreprise. Il n'y a qu'une chose qui marche aujourd'hui, c'est le réseau. Quand je fais ça, quand je donne des cours à l'ESCP et au STAPS, quand je dis ça à des jeunes, ils me disent oh, « mais ça, c'est du piston ». Non, 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 non. Le piston et le réseau, ça n'a rien à voir. Le piston, c'était à l'ancienne, des gens qui n'étaient pas toujours très compétents et très bons, mais qui, voilà, grâce à quelqu'un de bien placé, avaient un poste. Là, aujourd'hui, tu ne peux plus faire ça, parce que si tu n'es pas compétent, je te virais. Donc, le réseau, c'est tout autre chose. Et il y a à organiser son réseau. Et c'est vrai que le français à l'étranger est un peu plus perso. Mais ça commence quand même à changer, notamment avec la génération de jeunes.
Ouais. Et après, l'autre point, c'était savoir se vendre.
Alors, pareil, dans le DMVE com au DEPF, j'avais une partie en management qui était de vendre un projet et de se, entre guillemets, se vendre soi-même. C'est-à-dire comment se présenter.
Et c'est difficile, hein.
Rapidement, ce qui n'est pas simple, mais tout le monde est capable de le faire à condition de s'y préparer, de s'y entraîner. Et on faisait beaucoup ça au DMVE en faisant des simulations d'entretien d'embauche.
Ouais, c'est super intéressant et tellement, tellement important aujourd'hui. Donc si on reste sur ce sujet de l'international et le multiculturalisme, tu avais commencé à dire, après on a un peu dévié, quand tu étais en équipe de France, tu avais fait quelques formations pour les joueurs pour leur expliquer ce sujet-là justement.
En fait, j'ai commencé comme ça chez Renault. À 25 ans, j'étais embauché dans l'usine de Billancourt, dans l'île Seguin, qui n'existe plus maintenant, cette usine. Sur l'île et autour, il y avait 35 000 personnes qui faisaient des voitures. 90% d'ouvriers immigrés de 40 nationalités différentes et 90% de Français, ou même plus, 98% de Français pour les encadrer. Et moi, on m'avait dit, voilà, t'es responsable de l'organisation, la formation et la communication de cette usine. Donc vas-y, 25 ans.
Hein, ah, tout jeune, voilà.
Mon premier boulot. Donc j'ai rapidement fait le tour et constaté ce que je viens de te dire. Donc j'ai proposé deux choses, de faire de l'alphabétisation pour les immigrés, qui était en fait des stages plus que d'alphabétisation et d'apprentissage du français. C'était, on vient d'un pays moins industrialisé que celui dans lequel on arrive, donc qu'est-ce que ça change? Ça m'a valu de creuser un peu la question, d'aller en Afrique. Donc j'ai fait un voyage en Afrique de l'Ouest, Mali, Mauritanie, Sénégal, Maghreb, d'où venaient la plupart de nos immigrés. Et ils venaient pas clandestins, ils venaient par l'ONI, Office National Immigration, car la France avait besoin de bras. En gros, les jeunes Français, à cette époque, préféraient aller dans les banques, EDF, à la Poste, etc., plutôt que d'aller à la chaîne chez Renault. Donc il y avait besoin d'immigrés, qui venaient généralement célibataires et qui travaillaient chez Peugeot, Citroën, Renault, etc. Donc pour eux, voilà ce qu'on faisait. Et puis pour la maîtrise, donc les agents de maîtrise, les cadres et managers, j'ai osé proposer un stage ethnie, qui était un stage qui durait 6 jours, pour tous les agents de maîtrise de l'usine et cadres, qui était une espèce de analyse, réflexion sur causes et conséquences d'une immigration massive et qui posait un certain nombre de questions. Donc, je faisais intervenir un ancien ouvrier de Renault qui avait ouvert un restaurant à Barbès, un portugais qui est réfugié politique avant la révolution des œillets, qu'est-ce qu'il y avait encore, un professeur qui connaissait marocain et qui connaissait très bien la religion musulmane et son lien avec la société civile, on va dire. Et puis, pour donner un peu une tournure scientifique, il y avait un sociologue du CNRS et une ethnologue du Musée de l'Homme. Et donc, j'animais ces 6 jours avec ces intervenants, avec des films, des livres, etc. Et surtout, les cas que remontaient les agents de maîtrise et les cadres. C'était passionnant. Par exemple, il y avait une table avec une quinzaine, une vingtaine d'agents de maîtrise ou de cadres qui disaient « Les Arabes, ils sont tous faux culs ». Ah bon, pourquoi? Parce que quand tu leur parles, ils ne te regardent pas en face. Et là, c'est là où le professeur marocain intervenait en disant « Quand votre enfant a fait une bêtise, qu'est-ce que vous lui dites? Regarde-moi dans les yeux, dis-moi la vérité. » Mais nous, c'est l'inverse. Dès le plus jeune âge, on apprend à un jeune de baisser les yeux comme marque de respect devant un adulte. Et c'est qui l'adulte? C'est le père ou la mère. Après, c'est le chef. Donc vous faites un contresens. Je ne connais pas celui qui vous dit ça. Mais très probablement, s'il baisse les yeux, c'est par marque de respect et non pas par ce que vous appelez l'hypocrisie. Etc. Voilà, on avait on traitait des cas réels. Il n'y avait pas de cours, il y avait très peu de livres ou de choses écrites là-dessus à l'époque. Donc moi j'ai J'avais pas l'impression de bosser en plus, j'avais l'impression de continuer. D'ailleurs, j'ai commencé un doctorat avec un grand professeur de psychologie sociale et de sociologie, Moscovici, à ce moment-là, parce que ça l'intéressait beaucoup aussi de voir quelles étaient les représentations sociales des immigrés à l'époque, alors qu'ils arrivaient en masse. Les derniers arrivés étant, dans les années 76-77, les réfugiés laotiens, cambodgiens, vietnamiens qui fuyaient les Khmer Rouges. Donc voilà, j'ai fait ça pendant, au début de ma carrière, pendant 4 ans. Alors je me suis interrogé aussi, pourquoi et comment j'avais fait ça. En fait, du côté de ma mère, mon grand-père était d'origine italienne. Et quand j'étais jeune, j'ai beaucoup voyagé avec mes parents d'abord et ensuite seul. Donc j'ai été où tu as été, toi aussi, en Inde, au Népal. J'étais en Afrique, j'étais en Amérique du Sud, quand j'étais étudiant. Et toujours avec des gens du pays. C'est-à-dire, j'ai fait mes études avec un Mexicain. On s'est dit qu'à la fin des études, on irait au Mexique ensemble. Et on a passé un mois et demi ensemble. Donc voilà, j'ai beaucoup travaillé ou investi dans ce domaine de l'interculturel, on va dire. Par aussi des voyages, par des lectures, par des contacts, par des rencontres. Et donc, voilà, j'étais un peu préparé à ça. Et j'ai continué après, toujours m'intéresser. À l'époque, ça ne s'appelait pas l'interculturel. Mais maintenant, on appelle ça interculturel. Donc, j'ai donné des cours, et je donne toujours des cours à l'ESCP, au CELSA. Tout ça, je ne donne plus au CELSA, mais au STAPS de Nanterre. Et j'ai retrouvé par le foot ce que j'avais connu chez Renault, puisque, et de tous les côtés, à la fois pour envoyer, entre guillemets, ou pour accompagner des entraîneurs français partant vers l'étranger, ou pour accueillir dans les clubs français beaucoup d'étrangers ou de Français d'origine étrangère. Par exemple, tous les Maghrébins, tous les joueurs dont les parents ou grands-parents sont d'origine maghrébine, ils sont Français. Mais ils ont une histoire. Et eux-mêmes sont très intéressés à la connaître, cette histoire. Les joueurs africains, pareil. Ceux qui viennent d'origine surtout du Sénégal, mais aussi un peu de Mali, Mauritanie. Voire même les Antillais aussi, c'est pareil. Donc tout ce qu'on avait comme échange avec à la fois les étudiants, les managers d'entreprise, les coachs ou les joueurs, ou maintenant aussi les cyclistes. Tout ça, qu'est-ce que je fais ? Je compense, malheureusement, l'ignorance qui fait que certains dérivent vers le racisme, qu'il ne faut surtout pas ignorer, comme le dit Vieira aujourd'hui dans une interview. Oui, il y a du racisme, bien sûr, mais qui vient, pour moi, beaucoup plus de cette ignorance de l'histoire, de notre histoire, de l'humanité, et qui peut être compensée, mais qui ne l'est malheureusement pas encore complètement dès l'école. Il y a des pays qui sont plus en avance que nous là-dessus. Mais même dans l'école française, il n'y a pas assez de... Parce qu'on voit bien avec ce qui s'est passé il y a quelques mois avec l'assassinat du professeur. On voit bien qu'il y a des hésitations. Il n'y a plus d'instruction civique. Moi, à mon époque, tes parents ont dû l'avoir aussi. On entend parler de l'instruction civique. Il n'y en a plus maintenant. C'est intégré à Histoire-Géo, mais avec beaucoup moins de temps. Et c'est très dommage parce que c'est assez simple, c'est de l'information. C'était quoi l'Afrique avant la colonisation ? D'où on vient ? Quels sont les premiers hommes ? Où on les a trouvés ? Comment tout ça s'est fait il y a des millénaires ? Et là, il y a plein d'écrits avec des anthropologues, des archéologues, etc., des sociologues qui ont écrit plein de choses là-dessus. Et c'est passionnant à découvrir et à faire découvrir, mais malheureusement... Alors quand je l'ai fait une fois avec l'équipe de France, c'était très drôle d'ailleurs, parce que bon, tu vois un peu l'équipe de France, il y a beaucoup d'Antillais dont les parents ou grands-parents sont d'origine africaine ou antillaise. Bon. Et Thuram, qui était là, me dit bravo hein, pour tout ce que tu nous as raconté, c'est intéressant, c'est passionnant, mais c'est trop tard. Il dit comment ça c'est trop tard ? Parce qu'on est trop vieux, nous. Il faut le faire beaucoup plus jeune. C'est-à-dire, il me dit dès le plus jeune âge, dès l'école, quoi. J'ai dit oui, ça, t'as raison, 100% d'accord avec toi, mais vas-y, tu vas être en retraite bientôt, fais-le. Et en fait, il a créé une fondation contre le racisme. Il jouait au Barça à l'époque et il continue maintenant. Alors parfois avec les excès à la Thuram aussi, hein, que d'aucuns savent repérer, mais peu importe. Sur le fond, il a créé une fondation contre le racisme et il essaye de délivrer la parole dans les écoles, les centres de formation, etc. Et d'autres aussi le font. Hein. Moi, tous ceux avec lesquels j'ai discuté en équipe de France, mais c'est des discussions extraordinaires. avec justement Patrick Vira, avec Claude Makélélé, avec Thierry Henry, avec Lyon Thuram, même avec Zizou. Enfin, y a à connaître leur propre culture ou celle historique de leurs parents ou leurs grands-parents. Ils connaissent beaucoup mieux la nôtre, puisqu'ils sont la plupart nés ici, en France. Mais voilà, le lien ne se fait pas nécessairement. D'où un certain nombre d'excès de la part de certains immigrés, mais aussi de la part de Français qui ne font pas l'effort ou n'ont pas eu la chance, entre guillemets, comme on le faisait chez Renault, de les acculturer un peu à ce monde de l'interculturel, mais aussi maintenant de l'intergénération, qui est finalement pas si compliqué à connaître. L'important, c'est de faire l'effort, soit quand tu es en situation de dirigeant, de le mettre en place dans ton entreprise, soit à l'extérieur ou dans les écoles, universités, soit personnellement d'aller faire cet effort, de combler l'ignorance, parce que beaucoup de choses viennent d'ignorance plus que... Regarde l'exemple de Cavani en Angleterre, qui a pris des matchs de suspension parce que on aurait repéré sur des tweets qu'il traitait un de ses copains de Negrito. T'es argentin, j'ai été 4 ans et demi en Argentine, j'y retourne tous les 2 ans ou 3 ans. Tous les Argentins ont des surnoms. El Flaco, El Flaquito, El Gordo, El Gordito, El Negro, El Negrito, etc. Et c'est pas du tout une injure. D'abord, Negro, c'est noir en espagnol, déjà. Negrito, c'est petit noir. Et pourquoi petit noir? Parce que t'as des origines indiennes et t'es un peu plus bronzé que les autres. Et c'est pas du tout une injure pour... Mais va faire comprendre ça à des Français ou même à des Anglais, dans le cas de Cavani.
Les joueurs que t'avais au début de ta période d'équipe de France et jusqu'à la fin, est-ce que t'as vu justement ces questions interculturelles? Est-ce que tu voyais une réflexion un peu différente?
Ils essayent de s'informer de plus en plus. Et de connaître et de comprendre ce qui se passe en dehors de ce qu'ils ont vu dans le vase clos. Parce qu'il faut bien se figurer aussi ce que c'est que des sportifs de haut niveau, notamment les footballeurs. Quand ils vont dans un centre de formation, en gros, ils sont en vase clos de 15-16 ans jusqu'à la fin, quoi. Donc ils ont paradoxalement une maturité plus précoce que les ados de leur âge, mais ils passent à côté de plein de choses. De ce que les autres qui ne sont pas dans le sport vivent à côté. Donc ils ont une forme à la fois de maturité, mais aussi de naïveté. Et c'est pour ça que certains ont plein de problèmes avec les agents, avec les investissements qu'on leur fait faire, etc. Donc quand ils sont bien entourés par le conjoint déjà, le choix du conjoint extrêmement important, les agents, la famille, les amis, les faux amis, les médias, etc., les clubs, quand un joueur est bien entouré, ça se passe relativement bien et il va encore plus loin. Il se renseigne, il essaye de compléter son information. Et sur le plan plus cette fois culturel, le niveau s'est élevé au prorata aussi du niveau de l'instruction, entre guillemets, de l'école en France, quoi. Là aussi, le grand public ne le sait pas, mais dans un centre de formation, on ne fait pas que du foot, hein. On passe beaucoup plus de temps à l'école qu'à jouer au foot. Hein. Et beaucoup de joueurs professionnels, aujourd'hui, vont jusqu'au niveau bac. Mais c'est vrai dans tous les sports, même les sports olympiques, c'est plus compliqué. Parce que la France n'est pas les États-Unis. Ou aux États-Unis, on peut continuer une carrière sportive de haut niveau tout en continuant des études. En France, c'est plus compliqué.
Qu'est-ce que tu dirais à un entraîneur qui hésite avant de partir à l'étranger?
Surtout ne pas hésiter, mais bien se préparer. Ça serait trop long ici, mais c'est l'objet de ce que je faisais dans l'intervention auprès d'eux. Bien prendre en considération beaucoup de choses. Soi-même déjà, s'interroger sur soi-même, donc mieux se connaître. Son entourage, donc la famille. Est-ce que j'y vais avec ma famille ou pas? Après, y a toute la préparation dont on a parlé. Il y a la langue, mais c'est facile, c'est plus un obstacle du tout. Puis il y a cette ouverture, être ouvert aux autres. J'ai un tableau d'ailleurs qui montre qu'est-ce qui se passe quand on est excessif. C'est-à-dire quand on va dans un pays et qu'on veut reproduire son propre pays ou sa culture, là on se plante bien sûr, oui. Mais parallèlement, si on va dans un pays et qu'on s'imprègne trop du pays, de sa culture, etc., on se plante tout aussi. Parce qu'on n'est pas là pour ça. On est là pour apporter quelque chose. Si on prend un entraîneur étranger, c'est en partie parce qu'on n'a pas sur place les entraîneurs locaux du niveau requis par ceux qui décident de faire venir un entraîneur étranger. Donc, il faut doser ce qu'on apporte par ce pourquoi on nous a dit de venir, mais aussi faire l'effort d'observer, d'écouter. Et la solution, ceux qui réussissent sont ceux qui ont trouvé ce compromis entre les deux. De faire l'effort de mieux se connaître et connaître son pays, sa culture, son identité. Comment les autres nous voient ? Est-ce qu'on nous voit toujours avec la tour Eiffel, le béret, la baguette, etc. ou est-ce qu'on est autre chose ? Et comment nous, on voit, c'est un peu ce que j'ai commencé à écrire et je t'en ai parlé, sur l'Argentine où les Français ne connaissent pas l'Argentine. Les Argentins connaissent et aiment beaucoup plus la France que les Français ne connaissent l'Argentine. La France, c'est le pays de 1789, c'est le pays de mai 68, c'est le pays de De Gaulle qui a dit merde aux Américains, c'est le pays qui n'aime pas beaucoup les Anglais, et nous non plus avec l'histoire des Malouines. Etc., etc. C'est le pays de la mode, c'est le pays du luxe. Voilà, c'est le pays qui a battu nos ennemis jurés brésiliens 3-0 en finale d'une Coupe du Monde. Voilà, quand tu fais l'effort de connaître l'histoire du pays, par exemple, en Argentine, les Français connaissent le tango comme danse. Or, pour les Argentins, c'est d'abord la letra, c'est-à-dire le contenu, le texte du tango. Qui vient après vient une musique, vient éventuellement une danse, mais c'est pas, le sujet, c'est la lettre qui raconte toute l'histoire de l'Argentine. Quand on fait cet effort-là, et quand on va plus loin, même en lisant des livres, si on y arrive, dans la langue, le contact avec les locaux, voilà, moi j'ai vu des gens échouer même en expatriation, parce qu'ils voulaient rester entre Français, mais ça, c'est pas possible. Voilà, c'est pareil, quand des joueurs. À l'époque, on citait des cas dans le DEPF. On fait venir au Mercato en janvier un Brésilien, soi-disant parce que, par cassette à l'époque, il marquait 20 buts par saison. Le type, il arrive, il vient de Sao Paulo, il va à Grenoble. Mettons, Sao Paulo, janvier, 30 degrés, Grenoble, moins 10. Personne s'occupe de son intégration. Donc le mec, il déprime. Il marque aucun but, viré. Alors que Lyon, par exemple, d'après ce que j'ai compris, a mis une dame qui s'occupe de tout l'accueil depuis longtemps maintenant, depuis 10-15 ans, des Brésiliens, qui les met en relation, voilà, et qui les, entre guillemets, qui les intègre dans la vie française. Ce n'est pas pour autant qu'ils deviennent français ou qu'ils prennent tous les bienfaits ou les mal, ou ce qui est mal de la société française. Ils se réunissent aussi entre eux. Les Argentins, pareil. Hein. Les Argentins, il y en a certains, ils boivent le maté. Ils font des assados le week-end quand ils peuvent. Voilà.
Les clubs français, j'ai l'impression qu'ils sont un peu en retard pour ça, pour accueillir par rapport aux Allemands, aux Anglais, pour accueillir des joueurs étrangers. Ici, on voit dans les clubs qu'il n'y a pas ces structures pour accueillir ces joueurs étrangers, ces staffs étrangers.
Oui, mais c'est encore une fois, c'est la même chose que ce qu'on disait tout à l'heure sur l'interculturel, voire le racisme. C'est l'ignorance, quoi. Moi, j'ai convaincu Emmanuel Hubert. T'embauches des Colombiens, il faut que tu ailles en Colombie.
Ouais.
Ouais, mais attends, mais c'est loin, c'est cher. Ouais. Tu comprendras qui est Nairo Quintana et son frère et deux autres Colombiens que tu as embauchés en même temps. Tu ne peux pas le comprendre si tu ne vas pas passer au moins une semaine ou 15 jours là-bas. Donc on y a été ensemble l'an dernier. On a été passé 15 jours en Colombie. Et ça change
tout.
Oui,
c'est la base.
Mais même seulement en 15 jours, tu vois plein de choses. Alors après, tu complètes par des lectures, par des contacts, etc. Mais faire cet effort, moi je conseille aux jeunes, en fait, trois choses dans mes cours. Voyager le plus tôt possible et le plus loin possible dans différents pays. Deux, informatique à fond, intelligence artificielle maintenant. Et trois, langue, et surtout l'anglais. Quand tu as ce bagage des trois choses, ok, tu auras un diplôme, ça servira ton diplôme, mais c'est pas ça qui fera la différence. Ce qui fera la différence, c'est tes atouts. C'est pas tes talents, tes compétences, tes qualités. Ce qui fera la différence, c'est tes atouts. C'est quoi un atout ? C'est quelque chose que tu as fait et que tout le monde n'a pas fait. Tu as été à 18 ans, au lieu d'aller avec papa, maman, en vacances, toujours au même endroit, tu as pris ton baluchon, tu es parti. Voilà. Tu as créé quelque chose, tu as innové, tu as pris un risque, même à un moment, un risque mesuré. ta double identité, c'est un atout considérable. Il ne faut pas la renier. Il ne faut pas non plus basculer dans un sens ou dans l'autre. Il faut t'en servir et l'expliquer. Parce que c'est un atout. Tout le monde n'est pas né de deux parents, de pas la même nationalité. Tout le monde n'a pas vécu comme toi dans deux pays différents. Même si tu es né en France de parents argentins, tu es biculturel, clairement. Et ça, c'est un atout considérable. Et j'essaye de travailler avec eux, avec les jeunes. Ça, c'est pas dans les CV. C'est de travailler sur ces atouts. Quels sont mes atouts? Parce que c'est ça qui va faire la différence. Pourquoi et comment tu as été capitaine d'une équipe de foot dès l'âge de 12 ans? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi même certains, ils me disent « j'ai été scout, mais j'ose pas le mettre dans mon CV ». Je dis « pourquoi tu n'oses pas le mettre ?» Parce que c'est mes parents qui m'y ont mis, j'étais trop jeune. Et puis ça fait un peu ringard, machin. J'ai dit « mais attends, si tu es à l'aise par rapport à ça, pour expliquer ce que tu as appris le scoutisme, par exemple la débrouillardise, l'esprit d'équipe, la solidarité, être dans des situations à la Koh-Lanta un peu des fois, etc. Si tu es capable d'expliquer tout ça, mais mets-le. Mais un recruteur en face, il va être intéressé par ça. Et ça va devenir un atout. Donc, il y a encore plein de choses à faire. J'essaye humblement et modestement de le faire passer avec les jeunes. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire dans l'entreprise, dans les écoles, dans l'université, comme dans le sport.
En tout cas, merci beaucoup Jean-Pierre pour ces mots, pour ces messages et pour toute ton histoire qui est passionnante. On a appris plein de choses. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite?
Que ça continue le plus longtemps possible. Comme disait, je crois que c'est Woody Allen qui a dit ça, on est tous faits pour mourir, mais pourvu que je ne sois pas là quand ça arrivera.
C'est ça. Bon, merci beaucoup Jean-Pierre.
De rien.
Et à très bientôt.
Merci, c'était un plaisir.
Merci.
Et merci et bravo pour ce que tu fais.
Ah, c'est très gentil. Merci beaucoup.
En plus d'être doté de qualités humaines indéniables, Jean-Pierre a une réelle volonté d'apporter ses connaissances et son savoir à la jeune génération. Je ne sais pas vous, mais moi personnellement, ce moment d'échange m'a vraiment boosté et donné envie de dépasser mes objectifs. Voilà, vous venez d'écouter le 16e épisode de En dehors de ma surface. J'espère que vous avez aimé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. À bientôt !